Il est 12h30, passé de 30 secondes sur France Culture. Le journal vous est présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Une centaine de migrants portés disparus depuis vendredi après deux naufrages au large de la Libye. Plus de 1200 personnes ont déjà trouvé la mort depuis le début de l'année en Méditerranée. Précision avec Véronique Reberotte dans un instant. De nouveaux raids aériens qui visent ce matin la ville d'Alep au moment où le secrétaire d'État américain John Kerry cherche toujours à Genève les moyens de sauver la trêve en Syrie. La publication par Greenpeace de documents confidentiels qui confortent les craintes des opposants au traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, notamment sur les questions de santé et d'environnement. Précision avec Anne-Laure Chouin. Le 1er mai placé sous le signe de la lutte contre le projet de loi travail, émaillé de violence hier, des incidents à Paris qui ont fait plusieurs blessés. On y reviendra avec Cécile Aspe. L'examen de cette loi travail va commencer demain à l'Assemblée nationale. Selon le rapporteur du texte, le socialiste Christophe Sirugue, il manque près de 40 députés socialistes pour obtenir une majorité. Analyse politique de Frédéric Seyss. Le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en 2015, les faits anti-musulmans ont triplé en France. Les préjugés antisémites ont persisté. Dossier suivi avec Catherine Dutu. L'invitée de la séquence interview, Valérie Igounet, qui est historienne spécialiste de l'extrême droite dans la dernière partie, Caroline.
Nous parlerons de la Syrie. Nous nous demanderons comment penser la Syrie aujourd'hui à l'occasion de la tenue aujourd'hui et demain à Paris d'un colloque avec des chercheurs français et syriens autour de la coopération scientifique franco-syrienne.
Depuis l'accord turco-européen pour tenter de tarir l'arrivée de migrants en Grèce, la question migratoire semble un peu passer au second plan et pourtant les drames se multiplient en Méditerranée. Une centaine de migrants sont ainsi portés disparus depuis vendredi. Il y a eu deux naufrages encore au large de la Libye. Au total, plus de 1200 personnes ont déjà trouvé la mort depuis le début de l'année. Véronique Reberotte, mais cela n'occupe plus vraiment la une des journaux.
Non, une indifférence coupable de la part de l'Europe, ses décideurs, ses citoyens, elle n'est pas nouvelle. En 2014-2015, quand déjà une macabre comptabilité était tenue par l'Organisation internationale pour les migrations. Elle estimait à plusieurs milliers le nombre de morts en Méditerranée, d'hommes, de femmes, d'enfants, confrontés aux horreurs de la guerre, aux persécutions multiformes. Cette indifférence était d'actualité, renvoyant l'Europe à son immobilisme. En septembre 2015, la photo du corps du petit Elan, enfant kurde de 3 ans, originaire de Kobané, échoué sur une plage turque, devient le symbole de l'inaction de l'Union européenne face à la crise migratoire provoquée par la guerre en Syrie et en Irak, avec la réponse que l'on sait, une discussion que l'on peut qualifier de marchand de tapis entre États, de quotas de migrants à accueillir. Et pour finir, cet accord de sous-traitance, pourrait-on dire, conclu entre l'Europe et la Turquie pour refouler les nouveaux arrivants en Grèce vers la Turquie. Pour la présidente de la CIMAD, Geneviève Jacques, c'est cette démission de l'Europe qui explique cette nouvelle indifférence avec un glissement sémantique ces derniers temps. On ne parle plus seulement de migrants, mais désormais de migrants irréguliers qui traversent, meurent en Méditerranée alors qu'ils n'ont aucune perspective chez nous. Pourtant, dit Geneviève Jacques, si les médias et l'opinion aussi cela, si une partie de la population ne se satisfait pas de cet égoïsme. C'est ce que dit aussi Nicolas Hulot dans une tribune publiée hier dans Le Monde, intitulée « Migrants, où est passée notre humanité ?» Le militant écologiste y dénonce l'indifférence de l'Europe et cette manière progressive dont il s'est lui-même accoutumé à l'enfer depuis des années. Sommes-nous si peu nombreux à être troublés par l'accord conclu entre l'Europe et la Turquie, écrit Nicolas Hulot, qui appelle notamment un sommet international pour répartir les obligations de solidarité d'assistants et d'assistance face à la crise des migrants et l'ouverture aussi de corridors humanitaires.
Merci beaucoup, Véronique Reberotte.
En Allemagne, le parti anti-migrants se structure. L'AfD tenait hier son congrès à Stuttgart. Les délégués ont apporté leur soutien à un manifeste électoral proclamant l'islam incompatible avec la constitution fédérale.
Oui, l'AfD, Alternative für Deutschland, lancée il y a 3 ans seulement, qui n'a pas de député au Bundestag, mais qui est représentée tout de même dans la moitié des 16 assemblées régionales du pays. Des sondages créditent le parti de 10 à 14% des intentions de vote. Cela fait peur évidemment au parti traditionnel, Alternative für Deutschland, qui était avant tout une force de protestation, adopte un programme donc et finalement devient, Cyril Sauvageau, aussi une force de proposition.
Et l'objectif est bel et bien d'arriver au pouvoir un jour en Allemagne. Nous ne nous contenterons pas éternellement d'être dans l'opposition, a prévenu ce week-end la chef de file de l'AfD, Frauke Petri. À court terme, l'ambition est plus modeste et réaliste, c'est d'entrer au Bundestag fin 2017 aux prochaines élections fédérales, ce qui serait déjà une première pour l'extrême droite depuis 1945. Le contexte est favorable, les grands partis, CDU et SPD, sont en recul dans les sondages, sociaux-démocrates et conservateurs incarnent le système puisqu'ils gouvernent ensemble dans la grande coalition. L'AFD se voit comme la seule alternative, le seul parti capable de défendre une autre Allemagne, pour reprendre son nouveau slogan. Depuis hier, l'AFD a donc un programme et un thème prioritaire, l'islam, sujet de débat et d'inquiétude en Allemagne, avec l'arrivée de centaines de milliers de musulmans l'an passé et après le choc provoqué par les agressions de Cologne la nuit du Nouvel An. L'islam est étranger à l'Allemagne, affirme sans détour le document voté par les militants. Il propose notamment d'interdire les minarets, de légiférer sur le port du voile ou encore de mettre un coup d'arrêt au financement des mosquées par des pays comme la Turquie. L'AFD se positionne donc très clairement comme un parti d'extrême droite, l'équivalent allemand du FPÖ autrichien qui fait figure de modèle. En revanche, les débats en interne ne sont pas tranchés sur un éventuel rapprochement avec le Front National. Frau Köpetri défend toujours une vision très libérale de l'économie et elle estime que le FN de Marine Le Pen n'est rien d'autre qu'un parti de gauche.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin.
Il manquerait près de 40 voix de députés socialistes pour obtenir une majorité en faveur de la loi travail qui est examinée, je le rappelle, à partir de demain par l'Assemblée nationale. C'est le compte fait ce matin par le rapporteur de la loi, Christophe Sirug.
Dans une tribune publiée par Libération ce matin, il y a plusieurs députés socialistes, principalement aubristes, qui critiquent l'actuel projet de loi tel qu'il est, qui estiment qu'il est encore temps de trouver une nouvelle voie pour réformer ce code du travail, notamment en donnant du contenu au compte personnel d'activité. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour.
Le parcours de la loi travail vraiment semble semé d'embûches, et ce jusqu'au bout, puisque maintenant on arrive donc à la phase parlementaire. En perdant un peu de sa substance, au fur et à mesure, il ne semble pas vraiment gagner en séduction.
Non, et en témoigne le nombre d'amendements déposés par les députés. 5000 amendements, c'est un chiffre comparable au débat sur le mariage pour tous. Alors la moitié d'entre eux ont été déposés par le groupe communiste, suit ensuite avec 1000 amendements le groupe socialiste. La droite n'en a déposé que 673. Alors on est là dans une situation parlementaire assez inédite sous ce quinquennat. Au fil des mois, on avait pris l'habitude de voir les frondeurs fronder, les loyalistes voter, finalement des textes qui passaient, certes sans beaucoup de marge, mais qui passaient quand même, à l'exception notable de la loi Macron qui avait nécessité le passage en force du 49-3. Cette fois-ci, la géopolitique du vote est beaucoup plus complexe. On a une aile gauche qui est vent debout contre le texte, y compris dans sa nouvelle mouture présentée par le gouvernement. On a une aile droite qui est favorable, mais qui est peu nombreuse et qui en plus s'inquiète d'éventuelles modifications. Et puis, un ventre mou central qui doute, ce sont les députés moins habitués des plateaux et des caméras, mais qui n'en constitue pas moins la grande majorité des 280 députés socialistes. Par exemple, Cécile Untermaier, députée de Saône-et-Loire, qui pour l'instant prévoit de s'abstenir s'il n'y a pas de grande modification du texte. « Je suis gênée, dit-elle, vis-à-vis de mes électeurs. » Elle cite deux points principaux de négociation. Le périmètre du licenciement économique, d'abord. Dans la version actuelle du texte, il est permis pour les entreprises qui vont mal au niveau français, mais peu importe si elles sont largement bénéficiaires au niveau mondial. Et puis le deuxième point, ce sont ces accords d'entreprise. Les députés craignent que cela permette une concurrence, un dumping entre les entreprises au sein d'une même branche qui seront finalement peu à peu obligées de s'aligner vers le bas. Alors comment sortons de cette situation? Le vote solennel, ce sera le 17 mai à l'Assemblée nationale. De plus en plus de députés hors micro confient avec un peu de cynisme que la solution la moins pire serait finalement le 49-3 qui permettrait aux députés PS gênés de ne pas se prononcer.
Frédéric Saïs, merci.
Après deux mois de contestation contre le projet de loi sur le travail, de nombreuses manifestations du 1er mai ont été émaillées de violence. Hier, des débordements ont éclaté peu après le départ du cortège dans l'Est parisien.
Des jeunes cagoulés, casqués, ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre, qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. Il y a des incidents qui impliquent environ 200 à 300 jeunes qui se sont répétés à intervalles réguliers tout l'après-midi, avec des bris de vitrines, du mobilier urbain saccagé. Place de la République, l'habituel rassemblement du mouvement Nuit Debout a été même interrompu après des incidents qui impliquaient de jeunes casseurs. Deux personnes ont été un peu interpellées pour outrage et rébellion. Alors au sujet de Nuit Debout, on va revenir sur ces violences, mais d'abord au sujet de Nuit Debout, le ton monte à droite. Thierry Solaire, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, qualifie cette violence d'inouïe et se demande comment le gouvernement laisse des gens occuper la place de la République.
Je demande au gouvernement d'interdire l'occupation de la place de la République, parce que s'il y a un droit à manifester, c'est un autre sujet, il n'y a pas le droit de squatter des places dans Paris, et il y a le droit aussi à la quiétude pour les riverains. Et donc moi je demande au gouvernement, en période d'état d'urgence, d'arrêter tout ça, bien sûr, de toute évidence. Il va y avoir un mort, soit dans les rangs de la police, soit dans le rang des manifestants. Et l'état de droit, c'est pas le droit de casser tout, c'est pas le droit d'affronter les forces de l'ordre, c'est pas le droit de le jeter des bouteilles de verre à la tête des policiers. Et donc le gouvernement doit faire cesser cela tout de suite. Sur Nuit Debout, il y a une forme de complaisance du gouvernement au démarrage de cette affaire. Parce qu'ils se sont dit, la gauche, tout le monde les critique, rien ne va. Ah, ces jeunes qui viennent se rassembler. Regardez l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il est occupé depuis des mois et des années. Le gouvernement laisse faire. Là maintenant, ils sont en train de faire ça en plein Paris. Ça suffit.
Voilà, Thierry Soler donc avec Jean-Jacques Bourdin ce matin sur RMC. En revanche, pour la députée Front de Gauche Jacqueline Fraisse, le gouvernement perd son sang-froid. Selon elle, il y a des scènes qui ont été filmées qui montrent des agents s'en prenant à des citoyens qui ne faisaient qu'exprimer leur opinion. Cécile Aspe, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez hier, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce défilé du 1er mai ?
Eh bien hier, ce n'était pas un défilé classique du 1er mai. En fait, il y avait deux cortèges, le syndical, bien encadré par les services d'ordre de la CGT et de Force ouvrière, et puis en avant, des manifestants beaucoup plus jeunes qui défilaient avec une grande banderole, « Soyons ingouvernables » et des slogans tels que « Tout le monde déteste la police ». Très vite, la tension est montée entre jeunes et CRS, et puis arrivé au boulevard Diderot, tout près de la gare de Lyon, les heurts ont été plus massifs, et les forces de l'ordre ont donc bloqué la tête de manif, coupant le cortège en deux. Le peloton de tête était dans une sorte de nasse et au bout de 45 minutes, les CRS sont chargés à grand renfort de gaz lacrymogène. Plusieurs centaines de personnes, des jeunes, mais aussi des familles, des personnes âgées ont tenté de s'enfuir. Certains se sont réfugiés dans les cours des immeubles du voisinage. Du jamais vu de mémoire syndicale pour un 1er mai. D'où des questions qui se posent sur une stratégie de la tension de la part des forces de l'ordre. Depuis jeudi dernier, les syndicalistes dénoncent un changement d'attitude avec des jets de gaz lacrymogène à outrance, des policiers civils dans les cortèges. Pour Olivier Filliol, sociologue spécialiste des mouvements sociaux, directeur de recherche au CNRS, la recherche délibérée d'un pourrissement de la situation est difficilement contestable. La préfecture de police, de son côté, parle de 300 individus violents, des casseurs, organisés, encagoulés, casqués, qui ont continué, vous le disiez tout à l'heure, à sévir à l'arrivée du cortège Place de la Nation et dans la soirée Place de la République. Toute la difficulté pour les forces de l'ordre, c'est que ces jeunes ne se revendiquent pas casseurs, mais se disent autonomes par rapport au mouvement social tout en étant intégré au cortège. Et d'ailleurs, même les syndicalistes sont gênés par cette situation. Philippe Martinez, le patron de la CGT, disait hier qu'il y a un vrai problème de société autour de la violence, mais qu'il y a également une génération qui est sacrifiée. Ce n'est pas la bonne façon de faire, mais la colère est là. Donc en fait, tout le monde est gêné, syndicats et policiers.
Cécile Aspe, merci beaucoup. Le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme maintenant, en 2015, les faits anti-musulmans ont triplé en France et les préjugés antisémites ont persisté. Des chiffres du ministère de l'Intérieur sur les faits délictueux à caractère raciste, antisémite et anti-musulman sont globalement donc en hausse importante de 22%, plus de 2000 actes donc, un sommet jamais atteint depuis que ces statistiques sont révélées. En tout cas, le rapport de la CNDH note pourtant, parallèlement, une nette progression de ce qu'on appelle l'indice de tolérance. Expliquez-nous de quoi il s'agit, Catherine Dutu.
Alors, cet indice de tolérance est calculé à partir de 69 questions posées en face à face à un panel représentatif de personnes vivant en France. Indice total qui s'établit à 64 sur 100 en 2015 contre 59 l'an dernier. C'est donc une hausse qui s'explique notamment par un recadrage républicain opéré après les attentats qui ont ensanglanté l'année 2015. C'est l'avis de la politologue Nona Mayer, co-auteure de ce rapport de la CNCDH. Autre explication, cette fois tirée de la psychologie sociale des émotions, les situations d'anxiété comme celles provoquées par les attentats invitent à un réexamen critique des croyances et donc des préjugés de chacun. Et puis, une partie de l'électorat de droite semble avoir tourné la page des années Sarkozy, quinquennat marqué par des débats clivants autour de l'identité nationale. C'est ce qu'analyse encore Nona Mayer. Et c'est précisément chez les sympathisants de droite que cet indice longitudinal de tolérance a le plus augmenté. La tolérance qui est en hausse, les faits antisémites, anti-musulmans et xénophobes également. Si les actions et menaces contre les musulmans ont plus que triplé pour atteindre 429 faits enregistrés l'an dernier, ce sont les actes antisémites qui sont toujours les plus nombreux. Les juifs, qui représentent moins d'1% de la population française totale, sont la cible de 40% des actes racistes commis en France. Malgré tout, la CNCDH note une légère baisse de 5% de ses actes antisémites l'an dernier. Reste à savoir si cette tendance va se confirmer. La tolérance qui passe, selon la CNCDH, par l'école, plus de débats à faire dans les classes, ainsi qu'un renforcement de l'enseignement laïque du fait religieux.
Catherine Dutu, merci, avec Fabien Gosset.
Greenpeace publie ce matin 248 pages de documents confidentiels du projet d'accord de libre-échange commercial, le TTIP. Ces pages représentent 2/3 du texte du traité à l'ouverture en avril du 13e cycle de négociations et recouvrent 13 chapitres du traité.
Selon Greenpeace, donc, ces documents confirment que le traité mettrait les intérêts des grandes entreprises au centre du processus de décision politique et législatif au détriment des enjeux environnementaux ou de santé publique. Ce serait donc une confirmation à leur choix.
Oui, une négociation négociations qui avancent extrêmement lentement, en tout cas, et qui ne sera certainement pas conclue avant la fin de l'administration Obama. C'est l'un des enseignements de ces révélations. Jusqu'alors, on connaissait plus ou moins les positions européennes. Désormais, on sait quelle est la teneur de celles américaines. Des Américains qui mettent très peu d'enthousiasme à négocier et qui ne font pratiquement aucune concession. Plusieurs points bloquent toujours après 12 cycles tout de même de négociations. La coopération dans les services financiers, pratiquement aucune avancée de ce côté-là. Et l'ouverture des marchés publics. Pour faire court, l'Europe réclame de pouvoir accéder beaucoup plus largement aux marchés publics américains qui s'y refusent. Par ailleurs, le but principal de cet accord était d'harmoniser des normes différentes des deux côtés de l'Atlantique, des différences qui coûtent cher aux entreprises exportatrices. Mais tout indique, dans la mouture actuelle du texte, que d'harmonisation il n'y aura pas. On s'engage plutôt vers une reconnaissance mutuelle des réglementations. Ça veut dire qu'au lieu que Européens et Américains modifient leurs normes pour les faire converger, l'Europe va plutôt reconnaître la norme américaine équivalente à la sienne, donc acceptable, ce qui signifie que c'est la norme la moins contraignante qui devrait l'emporter. Du pain béni pour les multinationales, moins pour les PME qui n'auront pas les moyens de se mettre aux normes américaines. Et ça marche dans les deux sens. Par ailleurs, le principe de précaution appliqué par l'Union européenne est fortement remis en cause. Pour le faire valoir, il faudra, selon le texte, que les autorités prouvent que tel produit ou telle pratique est dangereux. C'est l'inversion de la charge de la preuve et cela fait très peur aux ONG. Enfin, sur certains points qui avaient fait couler beaucoup d'encre, comme les tribunaux d'arbitrage, les discussions, là encore, sont très peu avancées pour l'instant. Comme le résume le ministre allemand de l'économie Sigmar Gabriel, ce TTIP s'est acheté américain. Prochain cycle de discussion prévu en juillet.
Anne Norchou, hein, merci. Bagdad demeure sous tension après le départ des milliers de manifestants qui ont occupé depuis le week-end la zone verte de la capitale irakienne, un lieu sécurisé qui abrite, on le sait, le Parlement, le bureau du Premier ministre et les ambassades. Les milliers d'Irakiens qui sont les partisans du chef chiite Moqtada Sadr ont menacé de revenir si les députés échouaient à approuver un nouveau gouvernement de technocrates censé s'attaquer à la corruption endémique. C'est une crise qui est suivie avec inquiétude aux États-Unis qui craignent qu'elle ne détourne les autorités de Bagdad de la lutte contre l'État islamique qui constitue la véritable menace selon Washington. Le secrétaire d'État américain John Kerry rencontre à Genève aujourd'hui l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, pour tenter de sauver ce fameux cessez-le-feu. Il y a de nouveaux raids aériens qui ont frappé la ville syrienne d'Alep où plus de 250 civils sont morts depuis le 22 avril. De son côté, donc, John Kerry est à Genève. Nous approchons d'un terrain d'entente, dit-il. Il reconnaît qu'il reste du travail à faire, mais c'est un optimisme diplomatique que ne partage pas Jean-Marc Rickly, professeur assistant à Doan, à l'antenne Qatari de King's College de Londres. Selon lui, Bachar el-Assad, grâce au soutien russe, ne renoncera pas à Alep.
Le régime syrien, ils ont fait une pause tactique durant ces deux derniers mois où ils se sont un peu concentrés pour la première fois sur l'État islamique avec la reprise de Palmyre. Et maintenant, les objectifs d'Assad sont très très clairs. C'est la prise d'Alep afin de renforcer sa position pour, dans le futur, avoir une position beaucoup plus forte dans les négociations, soit sur un gouvernement en Syrie ou alors dans le combat contre l'État islamique. Donc malheureusement, il reste environ 400 000 habitants à Alep. Il est fort à parier, si on regarde ce qui s'est passé depuis Genève 1, Genève 2 et surtout Genève 3, cette année avec des rencontres en fait, qui n'ont mené à rien. Donc Assad et son régime n'ont aucun intérêt à négocier une quelconque trêve ou un cessez-le-feu parce qu'ils sont dans une position de force et lorsque vous êtes dans une position de force, vous ne voulez pas négocier, vous voulez imposer votre point de vue.
Des propos recueillis par la radio suisse romande. Séquence interview, on est en compagnie de Valérie Higounet, en direct de nos confrères de France Bleu, Gare Lozère. Valérie Higounet, donc spécialiste de l'extrême droite, historienne. Alors, on va vous poser d'abord la question, évidemment, que tout le monde se pose au lendemain de ce 1er mai, célébré séparément par le père et la fille Le Pen. Comment est-ce que vous jugez d'abord le traitement par la presse de cette querelle entre Jean-Marie Le Pen et sa fille ?
Je le juge, on va dire, je pense que c'est un traitement relativement habituel. La chose nouvelle, c'est que pour la première fois, il y a deux surfaces médiatiques qui sont réservées au Front National, c'est-à-dire celle du père et celle de la fille.
Ça fait deux fois plus de temps d'antenne, oui.
Oui, exactement. De nouveau, le Front National, on va dire, remplit l'espace médiatique, oui.
Christine Monclar.
Oui, bonjour Valérie Higounet. Est-ce que d'après vous, dans l'histoire du parti, il y a un avant et un après 1er mai 2016? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui deux FN ou est-ce que, comme vous venez de le dire, il y a plutôt un FN qui a deux fois plus de surface médiatique?
Pour l'instant, moi, je considère que cette histoire du 1er mai, c'est la continuité de l'exclusion de Jean-Marie Le Pen qui date d'août 2015. C'est-à-dire que la rupture, pour moi, se situe à l'été 2015, quand Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front National. Et c'est la suite logique. Aujourd'hui, le Front National de Marine Le Pen se positionne comme il le fait depuis les années 2011. Tandis que Jean-Marie Le Pen refuse toujours ce nouveau positionnement et s'affiche aujourd'hui comme l'unité du Front National et le chantre de la diabolisation de son parti, de son ancien parti, peut-on dire, et toujours ce représentant de l'extrême droite française, alors qu'il est évident qu'aujourd'hui, Marine Le Pen affiche, si vous voulez, un Front National qui irait, comme elle dit, de la gauche à la droite, un Front National national et social, comme elle l'appelle.
Oui, le fameux Front National dédiabolisé. On voit qu'il y a un débat, enfin en tout cas une question entre l'unité du FN, Jean-Marie Le Pen appelé à l'unité derrière lui, entre sa fille et lui et ses partisans pour éviter une défaite en 2017, mais aussi l'union interne du Front National. Hier, Marine Le Pen a prononcé un discours d'1h20 alors que les cadres du parti avaient 4 minutes de parole chacun. Elle a besoin de revendiquer sa place de numéro 1. Est-ce qu'elle est contestée vraiment en interne ?
Il y a beaucoup de choses à dire sur la forme du banquet populaire et patriote, comme le Front National l'a appelé, qui s'est tenu hier. La première chose, oui, c'est vrai, Marine Le Pen a eu un temps de parole supérieur aux autres, mais ça, c'est quelque chose qui est assez classique dans l'histoire des partis politiques et encore plus une habitude au sein du Front National. Le positionnement du président, de l'ancien président ou de la présidente fait que ils ont, si vous voulez, une prééminence qu'ils se donnent et qu'ils imposent au sein du parti. Alors sur le discours lui-même, c'est vrai que c'est un discours évidemment intéressant, mais il faut bien voir aussi que certaines phrases peut-être étaient des clins d'œil au Front National, c'est-à-dire elle disait bien que l'esprit de son parti reste le même, qu'ils demeureront fidèles à leurs racines, à nos racines, et qu'ils ont revendiqué sans cesse, c'est vrai, l'union des patriotes.
Donc ça veut dire qu'elle a besoin, que Marine Le Pen a besoin de son père ?
Alors je dirais plus précisément que aujourd'hui la situation entre le père et la fille s'est inversée. Marine Le Pen a eu énormément, et j'insiste sur le côté énorme, besoin de son père quand elle a tenté et elle a voulu s'imposer au sein du Front National. Et là on remonte au début des années 2000, c'est-à-dire que Marine Le Pen est entrée au sein du Front National par la commission juridique et peu à peu, jusqu'en 2011, au temps de la présidence, quand elle est devenue présidente, elle a eu besoin de son père. Et son père lui a donné cet espace et à plusieurs reprises a sorti sa fille, on va dire, d'un imbroglio. Plusieurs se sont opposés justement à cette relation et à ce qui se faisait entre Marine Le Pen et son père. Aujourd'hui, il est évident qu'on ressent bien que Jean-Marie Le Pen a, entre guillemets, besoin de sa fille. Il ne cesse, par l'intermédiaire de différents canaux médiatiques, de revendiquer cette unité du Front National. Et il ne cesse aussi de dire qu'il est au centre de cette histoire, il y était, ça c'est vrai, et qu'il peut faire quelque chose pour une éventuelle, entre guillemets, victoire de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017.
Il peut faire aussi pour une éventuelle défaite, parce qu'hier il annonçait que Marine Le Pen, et c'était pas évident pour elle de l'emporter, même au premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'une candidature Front National canal historique pourrait gêner la candidature de Marine Le Pen ?
Alors déjà, je vais répondre à votre question, mais je pense qu'une candidature de Jean-Marie Le Pen à la prochaine présidentielle n'est pas vraiment envisageable en l'état des faits et en l'instant. Il y a déjà une donnée qui est assez logique, c'est l'âge de Jean-Marie Le Pen. Il va approcher les 90 ans et c'est aussi, pour l'instant, il faut revenir sur son rassemblement. Il y avait quand même, on parle de à peu près 400 personnes. Il y avait quand même les représentants de l'extrême droite radicale. Je pense notamment à Jérôme Bourbon, qui est le directeur de publication.
Rivarol.
Voilà, exactement. Et ils étaient ensemble il y a quelques jours, Bourbon et Jean-Marie Le Pen. Je pense aussi à Yvan Benedetti, qui est le président du Parti nationaliste français. Alors, si vous voulez, il y a quand même aujourd'hui un positionnement de ce que vous appelez le Front National canal historique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'extrême droite, radicale, et de l'autre côté, il y a quand même un Front National qui est toujours, malgré tout, dans une dynamique électorale inédite, il faut le rappeler. Il y est toujours. Après, cette année va être charnière. Évidemment qu'il y a au sein du Front National certains positionnements qui sont différents. Il y a aussi, on va voir la suite de l'histoire, c'est-à-dire ces personnes du FN Canal historique qui se sont affichées au premier maître Jean-Marie Le Pen. Vont-elles être exclues ou pas du parti? Il y a des petites choses qui vont avancer, un contexte évidemment national et international, les principaux candidats de leur adversaire politique qui ne sont pas nommés, leur thématique de campagne. Et, vous voyez, il y a tellement de choses qu'aujourd'hui on ne peut pas vraiment dire grand-chose.
Notamment avec Christine Monclat, spécialiste du Front National à la rédaction de France Culture. Merci beaucoup Valérie Higonnet d'avoir été en ligne avec nous en direct de Nîmes, des studios de France Bleu Gare Lozère. Quelques nuages sur le nord-ouest, ailleurs soleil dominant, température en hausse 12 à 23 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Tara Schlegel.